Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Antidote. Je ne sais la combien c'est, mais ça commence à en faire un certain nombre. Et cette année, Antidote, ça a toujours le même objectif. Vous donner des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un texte ou d'un ouvrage. C'est toujours le même format, des chroniques de 10-15 minutes. Et ce sera à raison d'une chronique par mois. Et un peu comme l'année dernière, mais de façon plus régulière encore, ceux et celles qui le souhaitent pourront venir approfondir leurs réflexions et leurs connaissances du texte en venant participer aux rencontres Antidote qui se déroulent un dimanche par mois à 18h au Café Associatif Lancrier, qui est situé, pour ceux qui ne le savent pas encore, au numéro 1 de l'avenue Monestier à Florac. Et pour approfondir le texte que je vais vous proposer aujourd'hui, on se retrouvera dès ce dimanche 18 septembre. À 18h donc. Alors, ce texte, tout le monde en a au moins entendu parler. Certains l'ont lu, souvent dans un cadre scolaire, et la plupart en connaissent quelques citations. Et pourtant, c'est un texte relativement peu connu dans sa globalité. Et il faut dire que sa lecture n'est pas très aisée. C'est un texte, en effet, qui a été écrit il y a fort longtemps, en 1576, dans un français donc qui nous est assez étranger. Alors, il existe bien entendu de nombreuses versions modernisées de ce texte, mais ça reste quand même un écrit un peu ardu pour des gens du XXIe siècle. Et pourtant, il reste d'une entière modernité. Et les textes dont je parle, c'est donc le discours de la servitude volontaire, écrit par Étienne de la Boétie. Je me proposais de tirer ici quelques fils de ce texte qui est court mais très dense en fait. Quelques fils qui peuvent nous servir à mieux comprendre notre servitude actuelle et peut-être à nous en défaire. Alors, le premier point dont je voudrais vous parler, c'est que si ce texte a été écrit sous la monarchie, la Boétie nous dit dès les premières lignes que son propos s'adresse autant à toutes sortes de gouvernements et qu'il soit le fait d'un seul ou de plusieurs maîtres. Et je vous lis ce qu'il nous dit au tout début de ce texte. « C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître dont on ne peut jamais être certain qu'il sera bon, puisqu'il est toujours susceptible d'être mauvais quand il le voudra. Et avoir plusieurs maîtres, c'est autant qu'on en a, être autant de fois extrêmement malheureux. » Voilà, les choses sont dites. La Boétie nous dit clairement qu'il n'a pas l'intention de débattre du type de gouvernement, mais d'essayer de comprendre pourquoi les peuples se laissent gouverner. Et d'ailleurs, il ne fait guère de différence entre des gouvernants. Alors, il cite trois types de gouvernants pour lui qui ont acquis leur pouvoir soit par la force, soit par le lignage, soit par l'élection. Et je cite « Ainsi, pour dire la vérité, je vois bien qu'il y a entre eux quelques différences, mais de raison de choisir l'un ou l'autre, je n'en vois point. Et même si les moyens d'accéder au trône sont divers, la façon de régner est toujours quasi semblable. Les élus traitent leurs sujets comme s'ils avaient des taureaux à dompter. Les conquérants agissent comme avec une proie. Les successeurs les considèrent comme leurs esclaves naturels. » Et il dit même: celui à qui le peuple a donné l'État, celui qui a été élu donc par le peuple, dès lors qu'il se voit élevé au-dessus des autres, flatté par je ne sais quoi, qu'on appelle la grandeur, il délibère de ne pas en bouger. Généralement, il envisage de transmettre à ses enfants le pouvoir que le peuple lui a donné, et dès lors qu'il a adopté cette idée, et c'est chose étrange de voir à quel point il surpasse en toutes sortes de vices et particulièrement en cruauté les autres tyrans. Alors on le voit, hein, la Boétie, il ne va pas par quatre chemins, il s'attaque dans ce texte à toutes sortes de gouvernements y compris donc ceux soi-disant élus démocratiquement. Alors la deuxième considération que je veux souligner ici, c'est que la Boétie insiste dans ce texte sur l'importance de la liberté pour les humains, bien sûr, mais aussi pour les animaux. Il insiste sur cette importance pour s'étonner que l'humain, lui, se laisse finalement si facilement déposséder. Et il y a un bout de texte, un extrait que je trouve très intéressant, je vous le lis. « Les bêtes, si les hommes font trop les sourds, leur cri « Vive la liberté !» Il y en a plusieurs parmi elles qui meurent sitôt qu'elles sont prises. Comme le poisson quitte la vie aussitôt que l'eau. Pareillement, ces bêtes-là quittent la lumière et ne veulent point survivre à leur naturelle liberté. Si les animaux posaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de ces bêtes-là leur plus noble caste. Les autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, font, lorsqu'on les prend, si grande résistance d'ongles, de cornes, de becs et de pieds qu'elles déclarent assez combien elles estiment chères ce qu'elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes apparents de la conscience qu'elles ont de leur malheur, qu'il est aisé de voir qu'à partir de ce moment, il s'agit pour elles de dépérir plutôt que de vivre, et qu'elles continuent leur vie plus pour regretter leur aise perdue que pour se plaire en servitude. Nous nourrissons le cheval dès sa naissance pour l'apprivoiser à servir. Et pourtant, nous qui pensons savoir le flatter quand vient le moment du dressage, nous le voyons mordre le frein, se ruer contre l'éperon, comme pour montrer à la nature, semble-t-il, et témoigner au moins par là que s'il sert, ce n'est pas de son gré, mais par notre contrainte. Et il ajoute deux petits vers, la Boétie. Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. C'est intéressant de voir d'abord à quel point il insistait sur la conscience des oiseaux, des bêtes, des animaux, d'être finalement, de perdre leur liberté et de toute la résistance qu'ils pouvaient mener contre cette perte de liberté. Et donc, ici, il se demande pourquoi l'humain, lui, se laisse prendre dans la servitude. Et il dit que le principal frein à cette recherche de volonté, c'est ce qu'il nomme la coutume. Alors par exemple, il dit « Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers faisaient sous la contrainte. » Et ainsi, de génération en génération, on s'accoutume à la servitude. Alors bon, ça fait écho à beaucoup de choses par chez nous. On peut s'intéresser par exemple aux grandes difficultés qu'ont eues au début de la révolution industrielle et pendant plusieurs décennies, les patrons à accoutumer le peuple au travail salarié. Aussi à toutes les résistances aux horaires imposés, mais aussi aux machines qui font perdre le sens de l'ouvrage. Et plus récemment, les résistances au numérique dans nos vies, qui n'est ni plus ni moins qu'une forme subtile d'asservissement, dont les générations suivantes s'accoutument avec tellement de facilité. On le voit, en effet, au départ, c'est quand même une lutte, et puis après, et chez les animaux, on le voit très bien d'ailleurs, puisque les animaux domestiques, de génération en génération, ils sont domestiqués. Ils ne font plus de résistance. Mais il poursuit quand même dans ses propos, il souligne que certains, mais c'est certainement vrai également chez les animaux, mais c'est vrai également chez les humains, certains cependant sentent le poids du joug et ne peuvent s'empêcher de le secouer. Certains ne s'accommodent jamais de la suggestion. Je vais vous lire une petite citation là aussi. « Ce sont souvent ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas de regarder ce qui est devant leurs pieds, mais s'inquiètent de ce qui est derrière et devant, et se remémorent de surcroît les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les présentes. Ce sont ceux qui, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand bien même la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit, et même la savoure, et la servitude n'est pas à leur goût, si adroitement qu'on la déguise. » Mais il rajoute quand même que, en général, le bon zèle et la propension de ceux qui ont gardé malgré le temps leur dévotion à la liberté, même s'ils sont nombreux, demeurent sans effet, parce qu'ils ne se connaissent pas mutuellement. Parce que la liberté leur est complètement ôtée, de faire, de parler et quasi de penser. Ils se retrouvent donc tous isolés en leur rêverie. Alors c'est intéressant de voir ça. En effet, c'est la solitude de la personne qui voudrait être libre et qui se sent entourée de personnes qui sont totalement serviles et qui n'arrivent pas à communiquer en fait. En même temps, si on veut revenir à la période actuelle, il est intéressant de noter que la grande victoire des gouvernants actuels et du modernisme, on va dire, c'est leur grande force de servitude. Ça vient du fait qu'ils ont réussi à assujettir également une grande partie de ces personnes-là. Et c'est une autre idée fondamentale de ce texte, c'est que les gouvernants, pour asservir les peuples, ils n'ont pas forcément intérêt à utiliser la violence ou la force. Il est plus facile, moins coûteux et plus efficace d'asservir les peuples par l'abêtissement. Et alors, à ce propos, la Boétie nous raconte une histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de la Lydie. Lydie, c'est un pays, donc. Alors, je vais vous raconter ça. C'est l'exemple de ce que fit Cyrus aux Lydiens après s'être emparé de Sardis. Sardis, c'était une ville de Lydie, donc la ville principale de Lydie. Et donc, après s'être emparé de la ville, avoir eu à sa merci Crésus, ce roi si riche, qui l'amena captif avec lui. Alors, on lui transmit la nouvelle que les Sardins, les habitants de Sardis, s'étaient révoltés. Il aurait eu tôt fait d'écraser cette révolte par sa puissance. Mais, ne voulant ni mettre à sac une si belle ville, ni se contraindre à entretenir une armée pour la garder, il eut l'idée d'un fameux expédient pour assurer sa domination. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et fit publier une ordonnance selon laquelle les habitants avaient l'obligation de s'y rendre. Le moyen fut si efficace qu'il n'eut jamais besoin depuis de tirer une seule fois l'épée devant les Lydiens. Ce pauvre et misérable peuple s'amusa à inventer toutes sortes de jeux, si bien que les Latins en ont tiré un mot, et ce que nous appelons passe-temps, ils l'appellent lude, comme s'il voulait dire lead. Donc on reconnaît le mot ludique aujourd'hui. Voilà, donc c'est intéressant cette histoire. Bon, ouais, on voit que ça remonte pas aujourd'hui. Ben oui, un bon moyen finalement d'assujettir les peuples, c'est ben, de les distraire, on va dire. Et bon, je pense qu'on peut, vous pourrez sans problème trouver par vous-même quelques points communs avec notre société. Et alors, il parle d'abêtissement, mais il parle également d'endormissement. Par exemple, il nous dit que pour nous endormir, les gouvernants ont plusieurs méthodes. Par exemple, souvent, ils peuvent se parer de titres pompeux. Par exemple, se parer du titre de tribun du peuple. Alors, ça endort le peuple, puisqu'ils ont un tribun, c'est le leur, donc tout va bien. Ou alors, ça aussi c'est intéressant, ça ramène à beaucoup de choses aujourd'hui, accompagner leurs actions de, alors je cite là, « jolis propos sur le bien public et le soulagement commun ». Voilà, on a plein d'exemples à donner de cette espèce d'hypocrisie des gouvernants qui, sous des magnifiques termes, enfin, des magnifiques discours, endorment le peuple. Et bon, on le sait, hein, notre servitude actuelle est liée en grande partie, en totalité, à la dépendance à tout un appareil d'État, un appareil également industriel, hein, une immense dépendance, et aussi une dépendance à un confort et à un mode de vie non négociable, comme l'avait si tranquillement déclaré un certain président des États-Unis d'Amérique. Alors après, je voudrais, pour finir, insister sur une dernière idée de ce texte. Il insiste beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler l'imbrication des servitudes. Et je vais vous citer un passage, alors là, tendez bien l'oreille, parce que vous allez voir, c'est très intéressant, mais il faut un peu tendre l'oreille. Ce ne sont pas les bandes de cavaliers, ce ne sont pas les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas au premier abord, mais certes c'est vrai. Ce sont toujours 4 ou 5 individus qui maintiennent le tyran, 4 ou 5 qui tiennent tout le pays en esclavage. Il n'y en a toujours eu que 5 ou 6 qui ont eu l'oreille du tyran et s'en sont approchés d'eux-mêmes ou bien ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et ceux avec lesquels il partageait ses pillages. Ces six-là guident si bien leur chef qu'il faut pour leur organisation qu'ils soient méchants, non seulement de ces méchancetés, mais encore des leurs. Ces six-là en ont 600 qui profitent sous eux et font de leurs 600 ce que les six font aux tyrans. Ces 600 en tiennent sous eux 6000 qu'ils ont promus en leur donnant une situation auxquelles ils font donner ou le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers afin de maîtriser leur cupidité et leur cruauté pour mettre celle-ci à exécution le moment venu et leur laisser faire tant de maux par ailleurs que ce n'est que sous leur ombre qu'ils peuvent durer et se soustraire aux lois et aux sanctions qu'elles leur feraient alors encourir. Grande est la suite qui vient après cela, et celui qui voudra s'amuser à dévider ce filet verra que ce ne sont pas les 6000, mais les 100 000, mais les millions qui par cette corde se tiennent aux tyrans. Voilà, là il explique bien comment, d'échelon en échelon, toute la tyrannie se tient ensemble en fait. En somme, il rajoute, on comprendra que l'on en arrive à ce point par les faveurs ou sous-faveurs, les gains ou regains, qu'on a avec les tyrans, et qu'il se trouve finalement autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable que d'autres à qui la liberté serait agréable. Et je continue toujours sur ce même chapitre. Dès lors qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne parle pas d'un ramassis de larronneaux ou des oriers qui ne peuvent guère en une république faire ni mal ni bien, mais de ceux qui sont entachés d'une ardente ambition et d'une notable cupidité. Tout cela s'amasse autour de lui et le soutiennent pour avoir leur part du butin et être sous le grand tyran, tyranno eux-mêmes. Et oui, et il insiste vraiment sur la place de tous ces petits tyrannos, tous ces petits chefs qu'on peut être tous à tour de rôle, tous ces valets du pouvoir qui sont finalement, et il insiste sur le fait de finalement que ce sont eux les moins libres. Et alors je cite un dernier petit passage, ça me semble très intéressant. Car, à dire vrai, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner davantage de sa liberté et, pour ainsi dire, serrer à deux mains et embrasser la servitude ? Qu'ils mettent, il parle des tyrannos, là, des petits tyrans, qu'ils mettent un instant de côté leur ambition, qu'ils se débarrassent un peu de leur cupidité, et puis qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils apprennent à se connaître. Ils verront alors clairement que les villageois, les paysans, qu'ils foulent aux pieds tant qu'ils le peuvent et qu'ils rendent pire que des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux qui sont ainsi malmenés sont toutefois, par rapport à eux, chanceux et d'une certaine façon libres. C'est ça le propos de la Boétie, au-delà de « ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux », etc. Je voudrais conclure ce propos en disant que voilà, ce qu'il dit en fait, c'est que la révolte, la liberté, elle ne peut venir que de ce peuple qui vit sous le joug, mais qui sait encore ce que c'est que la liberté. On ne peut rien attendre de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, tirent profit de la servitude des autres. Et je crois que dans nos sociétés, on a réussi à faire tel amalgame qu'il y a énormément de gens qui tirent de profit de la servitude de autre. Allez, avant de nous quitter, je fais une petite dernière citation qui, celle-là, pour le coup, est assez connue. « Soyez décidés à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui l'on a dérobé la base de son poids même s'effondrer au sol et se rompre. » Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques réflexions. Sur ce discours de la servitude volontaire, je vous dis donc à très bientôt sur Radio Barthas.